Bonjour, bienvenue sur Radio FM Plus Montpellier pour la liberté des mers. J'aime le monde de la mer. J'aime aussi la chanter. Bonjour à vous, à toutes et à tous, marins, gens de la mer, amoureuses et amoureux des vagues. C'est maintenant l'heure de prendre la mer.
Matelot, tout le monde sur le pont, la double de Rome, il faut que ça tourne rond.
La mer immense, emplit l'horizon jusqu'au bord. L'immensité de Dieu remplit la mer immense. Victor Hugo. Bienvenue à bord de la liberté des mers sur l'immensité des océans. Bonjour à vous, amis de la mer, n'est-ce pas? Alors, aujourd'hui, un petit salut pour tous ces skippers qui sont sur des courses lointaines ou plus proches, des régates, voilà, parce qu'on pense à eux. Et puis, je reçois aujourd'hui à ce micro Andrea qui fut un naufragé solitaire en plein Pacifique. Vous voyez de quoi nous allons parler. Bonjour Andrea.
Bonjour Jean-Marie.
Ça va, on est revenu du Pacifique?
On est revenu du Pacifique, oui.
Et en bonne forme?
Oui.
Bon, heureusement. Nous entendrons également la voix du commandant Kies, mon frère, car en ce mois de novembre, nous parlons des fortunes de mer. Alors, les fortunes, ça peut être positif ou négatif. C'est comme la pharmacie ou le médicament, c'est pareil. Et donc, il y a des fortunes positives et des fortunes négatives, mais elles sont inattendues, voilà, imprévisibles. On a tout prévu, pas ça. Dans l'Antiquité, très vieux, du 11 novembre au 10 mars, eh bien, les mers étaient fermées. On disait « Maria Clauduntur ». Et dans ces temps reculés, un monsieur qu'on connaît par ailleurs, qui s'appelle Jean Chrysostome, qui habitait à Antioche, alors on l'appelait Bouche d'Or, parce qu'il parlait très bien, c'était un très bon politicien quand il parlait de sa religion, eh bien il connaissait bien, lui, les gens de mer, il voyageait beaucoup comme d'autres. Et pour lui, l'hiver, c'était la saison du repos, dit-il. Celle où, par suite du froid et de la longueur des nuits, les marins, matelots ou pilotes restaient à la maison. Bon. C'était encore le cas il y a deux siècles, hein, dans la République de Salé, où les pirates, alors Salé c'est au Maroc, hein, où les pirates barbaresques hivernaient dès la fin du mois d'octobre, donc ils allaient sur les mers quand il faisait beau, et à la fin du mois d'octobre ils s'arrêtaient, et là nous racontons, ils s'empiffraient de tagines, de viande, de fruits épicés, servis avec du couscous ou du pain et du riz safrané. Ces non-pratiquants vidaient nombre de bouteilles de bon vin aux grandes dames de la population locale. Voilà, c'est de l'histoire qui n'est pas si ancienne que ça, parce que la piraterie en Méditerranée s'est arrêtée au milieu du 19e siècle seulement. Alors, partons sur les mers, nous. Eh bien, partir, c'est mourir un peu, dit le proverbe. Prendre la mer, c'est changer ses repères. C'est vivre dans des milieux étrangers, parfois étranges, comme nous allons le montrer au cours de cette émission. Peut-être, chère auditrice, cher auditeur, en reviendrez-vous vous-même transformé. Entre départ et retour, entre ici et ailleurs, le bout du monde s'éloigne sans cesse. Et la mer rappelle toujours que nous ne sommes que des petits navires sur l'océan, un grain de poussière flottant dans des étoiles. Et si les marins paraissent parfois superstitieux ou toutefois enclins à certains rites ou attention particulière à des détails dont on se moque à terre, hein, bah c'est que leur situation est quelque peu précaire la plupart du temps au sein d'un univers mouvant, alors les savants disent impermanent, n'est-ce pas, c'est mieux, d'où peut surgir de l'inattendu. Bah, visiblement ou en secret, ils montrent beaucoup de respect aux divinités censées régir leur destin, et oui. On n'en parle pas toujours. Hein. Ainsi, pour les anciens, la déesse Fortuna, bah oui, la fortune, la chance, fille d'Océan et de Tétis, c'est la mère de toutes les rivières, de toutes les eaux. C'est elle qui nous a donné le terme de fortune et de fortune de mer, bonne ou mauvaise. Eh bien, on avait un culte particulier pour elle, et puis aussi, surtout, à quelqu'un dont on reparlera, la noire Isis, dont l'œil de son fils Horus illustre encore l'avant de beaucoup de navires, y compris j'ai vu un paquebot cet été avec un immense œil Oujda à l'avant, c'est l'œil d'Horus, et indirectement donc la protection de la déesse Isis. Eh bien voici une des plus belles œuvres contemporaines à la gloire de la déesse Fortuna et de la roue du destin, Carmina Burana de Karl Hoff.
Oh,
Les dieux nous observent toujours, disait Henri, un vieux retraité de la marine qui touchait ses invalides. En Asie, on se souvient des statues de Bouddha qui donnent l'impression de te suivre du regard, quel que soit le sens ou le but de ta marche. Eh bien, en mer, disait Henri, méfie-toi, ils écoutent aussi. Le navigateur solitaire Josuas Locum en a fait l'expérience. Encore aujourd'hui, sur les routes balisées venues du ciel ou du fond des abysses, surgit l'imprévu, le surnaturel et parfois le fantastique. Tourmente, calme plat, ouvre les étranges hublots du mystère, de rencontres improbables et parfois funestes. Eh bien oui, Josuas Locum, il était en escale aux Açores, ce grand navigateur solitaire. Et on lui donne en cadeau du fromage de chèvre avec des prunes. Il reprend la mer, il est seul sur son voilier, le Spray. Il est en pleine nuit, la tempête se déclare, il perd connaissance, il tombe dans son cockpit, victime d'une intoxication. Et c'est alors que surgit l'impensable. Écoutons-le. Lorsque je revins à moi, je sentis immédiatement que mon sloop tanguait très bas dans une mer très grosse. Et je vis avec stupéfaction qu'il y avait un homme à la barre du Spray. Il tenait d'une main ferme les poignées de la roue. On peut imaginer mon ahurissement. Il était vêtu comme un marin étranger. Il portait un grand bonnet rouge incliné sur l'oreille gauche. Sa figure était recouverte d'une épaisse barbe noire en broussailles. Dans n'importe quelle partie du monde, on l'aurait immédiatement pris pour un pirate. Pendant que je regardais avec stupeur son aspect menaçant, j'oubliais la tempête et me demandais s'il était venu à bord dans l'intention de me couper la gorge. Il sembla deviner ma pensée. « Ah, Seigneur !» dit-il en ôtant son bonnet. Je ne suis pas voulu vous faire du mal. Non, je ne vais pas venir pour ça. J'ai beaucoup navigué, mais j'ai jamais été rien qu'un petit contrebandier, c'est tout. J'appartiens à l'équipage de Christophe Colomb, continua-t-il. Je suis pilote de la Pinta et je suis venu vous aider. Soyez tranquille, cher capitaine, je conduirai le bateau cette nuit. Vous avez attrapé une calentura, une indigestion, mais cela ira mieux demain. Je pensais qu'il avait le diable au corps pour continuer à porter de la toile par un temps pareil. À nouveau, comme s'il lisait en moi, il s'exclama « Mais la Pinta est là-bas, juste devant nous, nous devons la rattraper, il faut de la toile !» Valez, valez, oui, valez. Puis, se coupant avec les dents une grosse chicle de tabac noir, il ajouta « Vous avez eu tort, capitaine, de mélanger les prunes avec le fromage. Il faut toujours connaître l'origine du fromage blanc que l'on mange. Quien sabe ? Il a peut-être été fait avec du leche de capra, du lait de chèvre. Ça l'a rendu capricieux. » « Assez ! » criai-je, « je ne suis pas disposé à entendre un cours de morale. » J'étendis un matelas par terre afin de ne pas rester à même le plancher et je m'y couchai, les yeux toujours fixés sur mon étrange visiteur qui barrait. Et après avoir remarqué à nouveau que je n'avais que des douleurs et une calentura, il ricana, puis il se mit à hurler une chanson sauvage. « Hautes sont les lames farouches et étincelantes, haut est le rugissement de la tempête, haut le cri des oiseaux de mer, hautes sont les Açores !» Sans doute mon état s'améliorait-il car j'eus la force de remarquer avec aigreur « Ah, vous m'ennuyez avec votre chanson, si vos Açores étaient de respectables oiseaux, elles seraient à l'heure qu'il est en train de dormir sur leur perchoir. »
Morreu o pobre Toninho.
Vous voguez sur la Liberté des Mers, Radio FM Plus Montpellier, en ma compagnie Jean-Marie Kies, et aujourd'hui nous évoquons les apparitions surnaturelles en mer. Vous venez d'écouter le chant des baleiniers des Açores. C'est l'archipel auprès duquel Josua Slocum, dont nous venons de parler, a vécu sa rencontre inattendue avec le pilote de la Pinta de Christophe Colomb, toujours en forme après quelques siècles. Il était revenu de la nuit des temps pour l'aider à barrer dans la tempête. Quelle drôle d'histoire. Les Açores se situent au milieu de l'Atlantique. Certains disent qu'il s'agit du sommet immergé de l'ancienne Atlantide. Les habitants ont une longue tradition de chasse à la baleine aux cétacés. Le dernier cachalot a été pêché en 1987 et depuis, son espace maritime est devenu un véritable sanctuaire. Mes pensées voguent aussi aujourd'hui vers les équipages du match 6 en mer Égée, du voilier Osmose et sa mission de recherche sur le plancton marin. Imagine, lui, cingle du côté du Brésil. Et puisque nous évoquons les fortunes de mer, un coup de chapeau aux familles embarquées sur Plume et Nansen, qui ont délivré le 20 juillet dernier dans une mer déjà très formée, eh bien ils ont délivré une baleine qui avait été prise dans un filet de pêche. Fortune ou infortune, les marins n'en parlent guère, craignant de se faire moquer. Surtout lorsqu'il s'agit de visites, quelque peu surnaturelles, sur un bateau en plein milieu de la mer. Et pourtant, ils sont assez nombreux à avoir connu ce phénomène. Nous venons de parler de Josua Slocum avec l'apparition du pilote. Mais en 1942, sur son legs, l'Argentin Vito Dumas, en pleine tempête, le long des 40e rugissant, croira avoir vraiment deux passagers clandestins à bord discutant dans la cabine. Et il paraît que ça va durer. En 1969, Bertrand de Castelbajac, un autre skipper, entendait des volées de cloches. Plus près de nous, le skipper Sébastien Marcet déclarera « J'étais persuadé qu'il y avait un père et sa petite fille assis à l'avant du bateau, alors que j'étais seul à bord. » Aujourd'hui, les modernes skippers sont en liaison permanente avec leur team de terre. Ils ne développent plus d'hallucinations, me direz-vous, mais les courses solitaires restent source de phénomènes bizarres. Sans doute dû au manque de sommeil. Et oui, on parle d'un skipper qui, après avoir cherché en vain ses pare-battages, les ballons qu'on met sur la coque là, pour quand on s'arrête, eh bien, il sauta du pont, il se croyait à quai. Un autre a été récupéré par un cargo turc en juin 2013 dans le golfe de Gascogne. Il nageait pour fuir son voilier qui avait été pris par des fantômes, disait-il. Pierre Quiroga, en 2016, racontait ses hallucinations en Méditerranée. Dominique Favre voyait un chat à bord et Roland Jourdain prit son compas pour une tête de singe. Et plus tard, il entendit les meuglements d'une vache. Il se croyait peut-être dans l'arche de Noé. Yeah. Jean-Marie Kies sur la liberté des mers, Radio FM Plus Montpellier. Je suis en compagnie aussi d'Andrea qui va bientôt nous parler du naufrage qu'il a fait en plein Pacifique. Mais vous venez d'entendre Black Bullet, une histoire d'hallucination qui est interprétée par le groupe Kidney Thieves. C'est que nous traitons de phénomènes étranges qui surgissent en mer. Je vous propose d'entendre maintenant le récit très contemporain et somme toute merveilleux d'un commandant de marine. Et là, il s'agit, c'est simple, de mon frère, commandant Guy Kies. Ce matin-là, son cargo naviguait sur le sud, au sud de la Crète, et le soleil hivernal brillait de tous ses feux, éclairant de rouge à son lever les sommets de la Crète, couverts de neige à mi-pente. Du cap Crio à l'ouest jusqu'au cap Goudoura, il longeait les falaises à quelques centaines de mètres de distance, la côte était accore. Sous la crête précisément, là sous le mont Ida, là où naquit Zeus, ou Jupiter selon que vous êtes grec ou latin, le commandant Kies se chauffait doucement à l'aileron de la passerelle grâce aux rayons bienveillants de Phébus, qui poursuivait sa route dans le ciel bleu, où quelques petits cumulus humilis se dandinaient par-ci par-là. Regardant le sommet enneigé de la montagne sacrée, il vit alors un grand oiseau descendre de très haut. Ses rémiges de l'extrémité de ses ailes se redressèrent en s'écartant et un aigle immense se posta dans le vent à 2 mètres de lui. Écoutez, écoutons-le évoquer ce moment.
Alors je voudrais que, Guy, tu nous parles de cette aventure assez étrange qui t'est arrivée, donc c'était près de la Crète, c'est ça ?
C'est pas une aventure. Donc, je naviguais avec mon car carrier. Là, on allait chercher, on transportait des bagnoles pour le Liban et on longeait la crête. Parce que quand il y a le Meltem qui souffle, au nord de la crête de Rhodes et tout ça, il y a un vent, le Meltem, qui est épouvantable. En passant par en dessous, en bas, on est à l'abri des côtes. Et moi, je longeais la côte de très près, la côte de Crète de très près, parce qu'elle est à corps. Donc, à quelques centaines de mètres, je passais des plages et des pics rocheux qui vont jusqu'en mer, et ces choses-là. Et en arrivant sous le mont Ida, le mont Ida, c'est là que est né Zeus, ravitaillé, enfin nourri par Ino, l'histoire qu'on connaît bien. Donc, arrivé sur le mont Ida, on était à l'abri de la côte et tout allait bien. Et moi, j'étais à l'aileron de passerelle. Et puis, tout d'un coup, est arrivé un aigle qui... Mais un aigle très, très grand, un aigle... Pas un oiseau de volière. Hein. Et cet aigle-là est arrivé à ma hauteur, il s'est mis à la hauteur de l'aileron de passerelle et il allait à notre vitesse et il était à 1 ou 2 mètres de moi et il me regardait. Il me regardait tout en volant à notre vitesse. Alors je ne savais pas si c'était un message des dieux, de Zeus, qui m'annonçait je ne sais pas quoi, je ne savais pas. Et puis cet aigle-là, tout d'un coup, après avoir fait un petit quick, a battu de l'aile comme un avion qui salue, et puis il est reparti vers le mont Ida, et puis il a disparu vers le mont Ida, et le voyage a continué sans problème.
Et pourtant, c'était donc très nettement un signe que donnait le barbu suprême, mais quel avertissement, un signe de protection ? Du genre « je te prends sous mon aile » ou au contraire l'annonce d'un événement grave du genre « attention à toi, gare ». En effet, le navire transportait du fret de la marchandise, mais à part strictement égal pour les 3 factions en guerre au Liban. Ce qui évitait tout attentat, parce que le Liban était en guerre, il y avait 3 groupes armés qui se battaient. Et donc il y avait une trêve tacite qui s'était établie pour le débarquement des bagnoles à Tripoli pour les Syriens, puis des voitures à Beyrouth pour les chrétiens, et puis à Tyr pour les chiites. Mais ce fut une catastrophe, nous dit le commandant Kies. L'aigle était bien un avertissement. En plus des voitures, il y avait une bicyclette pour Tyr. Une seule. Et malgré les 2 cadenas, le tenant à une main de fer au pont principal, eh bien, le vélo fut volé par les chrétiens à Beyrouth. Le commandant précise « Les tirs sanglants auraient pu décimer le bord si je n'avais juré sur ma barbe que j'en ramènerais un neuf, parce que celui-là était d'occasion, le voyage suivant. » Cette fois, au retour, le second capitaine garda le vélo dans sa cabine et à Beyrouth, on me dit que « Mais non, ça n'avait pas été un vol, c'était simplement la réparation d'une injustice faite aux chrétiens, puisque eux, s'ils avaient eu le même nombre de bagnoles que les autres parties, eh bien, eux, ils n'avaient pas eu le vélo. »
Piéton.
Ce que je demande n'est pas difficile. Il me faut deux roues, un cadre et quelqu'un, un rayon qui tourne.
Piéton. Traversé.
Une chaîne et aussi quelques vitesses. Comme moi, vous pensez.
FM Plus Montpellier, la liberté des mers, on parle de troublantes apparitions en mer. Billy the Kid l'a chanté, son vélo, n'est-ce pas? Eh oui, vous voguez sur Radio FM Plus. Où dit-on, ceux qui vont sur la mer voient les merveilles du Seigneur. De quoi s'agit-il? Le rivage. Eh bien, le rivage dessine une limite entre du vraisemblable et de l'invraisemblable. C'est comme une frontière, la frontière d'un monde étranger. Eh bien, il est pourtant devenu au cours des siècles un lieu de désir, n'est-ce pas? Et côté pile, c'est comme un rêve, une face familière avec des reflets bleus déteignant sur des jolis filets de pêcheurs, des échos verts tels la peau des gentils poissons. C'est aussi la sensation du sable. Comme il nous semble proche, la grève de notre enfance où, en sandales, on sonde du bout de l'épuisette, le mystère de minuscules lagons odorants laissés par la marée. Et puis voici le pratique bain de mer, proche des rites d'initiation de l'Antiquité. Bachelard, le philosophe, disait « En tout nageur sommeille un héros qui apprend à surmonter sa peur ». Avec quel regard étonnant et parfois craintif, les petits découvrent-ils l'océan et son flux puissant. qui lamine inexorablement les plus beaux pâtés, assèche sans pitié les orifices qu'il tente de remplir. Mais au-delà du rivage, si l'on en croit une des perles relevées dans une copie par l'écrivain Jean-Charles, la mer, c'est une immense étendue d'eau d'un bleu dangereux. Et oui, partir c'est mourir un peu, dit le proverbe. Pour un terrien, voyager, y a des rites de séparation et de retour, mais il ne quitte pas son élément, il a ses repères. Certes, c'est pas tous les jours, lui, que le marin rencontre le grand chasse-foutre ou le gigantesque galipétan. Mais à mar largué, il change totalement d'univers. Oui, c'est le côté face. Il s'agit d'un abîme insondable, peuplé d'êtres merveilleux et parfois diaboliques. Alors, on me parle des attirantes sirènes, des séduisants morgans, des troublants tritons, ondulants, chevaux marins, léviathans, licornes de mer, kraken, calmars géants, serpents, poissons en habits de moine. Et la fabuleuse baleine de Jonas, bien sûr, et puis les vaisseaux fantômes. Sans oublier les manifestations miraculeuses, comme celle d'Ulysse, soustrait à la noyade par la déesse Leucothée. Sous la forme d'une mouette, elle le guide vers le rivage. Les ex-voto dans les chapelles marines illustrent à foison ces théophanies où la Vierge et les saints sont mis à contribution. En ce sens, le destin du capitaine négrier John Newton est un véritable prodige. Car non seulement Dieu le sauve du naufrage, mais il lui donne comme mission d'abolir l'esclavage, ce qu'il fera réellement et historiquement. Ah, tout le monde n'est pas ravi de croiser ces visions sacrées, et sur les quais ou le gaillard d'avant, on se raconte bien des légendes, comme celle donc du voltigeur hollandais et son équipage de squelettes, obligés de naviguer pour l'éternité parce que le commandant avait tiré un coup de fusil sur une apparition dans le ciel du Père Céleste. Le célèbre Barbe Noire pirate aurait partagé ce point de vue. Lui, il signait ses chartes parties, c'est-à-dire ses contrats, d'un « maître à bord après Satan ». Effectivement, selon le récit du pilote Charles, lui-même forban et avec Barbe Noire, le préjugé n'est pas des plus favorables pour croire que Dieu veuille faire des miracles pour des gens faits comme nous. Si les flibustiers ne faisaient appel au Tout-Puissant que dans les cas extrêmes et à leur corps défendant, ils n'hésitaient pas à commander bien des messes et à donner à l'Église beaucoup d'argent une fois rendu à bon port.
Quand le brouillard est dense et la marée glacée, on peut voir un fantôme, une ombre de voilier, la toile déchirée sur ses haubans filasses, au large de l'enfer et du cap Hatteras. Des marins morts-vivants, en haillons noirs de crasse, s'agitent sur le pont et dansent et gesticulent, décharnés, grimaçants et rongés de pustules, clamant leur haine au ciel et hurlant des menaces. Ce navire pourri, dont les vergues s'écroulent, apparaît dans la brume et grince et tangue et roule. Pêcheurs et plaisanciers se signent quand ils passent au large de l'enfer et du cap Hatteras. Il s'agit d'un vaisseau, le Hollandais volant, condamné à errer interminablement pour avoir oublié, erreur impardonnable, ce qu'il faut pour mouiller, ancre et chaîne valable. Et c'est pour cet oubli que ce voilier fantôme amputé du grand mât et craquant de la baume chahute infiniment sa houleuse carcasse au large de l'enfer et du cap Hatteras. Ô vous, adolescents qui croyez tout savoir, méfiez-vous de la hâte et le jour du départ, gardez dans votre poche avec vos caramels une encre miniature et son bout de ficelle. Et vous éviterez ainsi mauvais voyage, sale coup de tabac, Maelstrom à naufrage, loin de ce Hollandais volant qui tangue et passe au large de l'enfer et du cap Patéras. C'est mieux qu'une amulette, mieux qu'un fer à cheval, mieux que la soubirous sur médaille en étain, mieux que le grand gris-gris sacré du Sénégal, et surtout moins fatal que pâte de lapin. Ô vous, adolescents qui rêvez de la mer, route du Rhum au Vendée Globe en solitaire, pensez aux Hollandais volants qui tanguent et passent au large de l'enfer et du cap à terrasse. Et quand le grand vaisseau vire et prend de la gîte, des spectres, des zombies de marins s'y agitent. On les entend hurler, voix brisées dans le vent, leur angoisse éternelle comme des chats-huants. J'ai moi-même rêvé, comme tout un chacun, de naviguer au large, buriné et hautain, à Tabarly aux yeux bridés, dans les sargasses, ou autre part au diable, près du cap à Terras. Quelques croisières brèves en Méditerranée, par mer un peu méchante, m'en ont dissuadé. Après 10 jours de dégueulando sans panache, j'ai retrouvé l'honneur sur le plancher des vaches. Combien de destinées gerbées dans un hoquet, combien de grands costauds devenus freluquets, combien de rêves évanouis dans les grimaces, au large de l'enfer et du cap à terrasse. Oh, combien de marins, combien de capitaines, qui sont partis joyeux pour des courses lointaines, sont revenus cassés, dégoûtés, amaigris, ratatinés, puants, décalqués et moisis. Après combien d'interminables insomnies, après combien de spasmes dans leur petit vomi.
Radio FM Plus Montpellier, vous écoutez La Liberté des Mers, qui nous parle d'apparitions étranges sur les océans et de fortunes. Eh bien, la mer, dit-on, est une étendue d'eau d'où émergent de curieuses histoires. Est-ce que vous vous êtes jamais imaginé en plein Pacifique, seul, sans mât, sans radio, sans balise de détresse? Non, plus rien. Eh bien, Andrea qui est ici, encore bonjour Andrea, merci d'être venu. Andrea, notre jeune marin, ne voulait pas y croire. C'est pas possible, dira-t-il, on va revenir 5 minutes en arrière et tout sera comme avant. Eh ben non, voilà. Mais le mât est bien brisé net, les gréements sont emmêlés sur le pont, le Genoa traîne dans la mer, bientôt l'éolienne ne sera plus qu'un souvenir, un cauchemar. Andrea, c'est un grand plaisir pour moi et pour les auditeurs et auditrices de te recevoir ici à Radio FM+. Mais d'où te vient cet appétit pour la navigation pour la mer ?
Alors en fait, c'est un ami d'enfance, Frédéric, qui me l'a fait découvrir. Je l'ai aidé à bricoler son bateau pour qu'il parte faire un tour du monde avec. Après, j'ai profité de toutes les occasions que j'avais. J'ai fait surtout du côtier en Méditerranée, puis quelques jours autour de la Corse. J'ai trouvé que c'était un merveilleux moyen de se déplacer en utilisant simplement les éléments à notre disposition.
Eh bien, tu nous as donné des sueurs froides il y a quelque temps. Tu avais disparu des radars et des téléphones. Mais que t'est-il arrivé entre Tahiti et les Marquises ?
Je devais convoyer un bateau de Tahiti jusqu'aux Marquises. Donc ça fait environ 850 milles, donc 1500 kilomètres au nord-est de Tahiti. Le bateau, c'était un OVNI 31, un monocoque de 9,50 m robuste en alu. Et j'ai fait une escale à Rangiroa, un atoll à l'est des Tuamotu, pour laisser une équipière et je repars seul sur les Marquises. Une fois que je sors de la passe, je ressens un immense sentiment de liberté, une aventure extraordinaire qui m'attend. J'ai normalement entre 7 et 8 jours de navigation prévus, le vent est bon, il fait beau, tout va pour le mieux. Mais après quelques jours de navigation, aux alentours de 9 heures, un matin, j'entends un gros craquement suivi d'un grand vlan. Et je relève la tête et là je vois le mât plié en deux qui traîne dans l'eau.
Eh bien, quelle histoire! Quel sentiment éprouve-t-on en mer lorsque, isolé, on se sent unique et porté par une très grande force rien que pour soi? Quel sentiment on a?
Alors il y a d'un côté la force des éléments qui me portent et en même temps un sentiment de solitude. Au-delà du bleu à perte de vue, les prochains êtres humains sont vraiment très loin. Je suis vraiment totalement livré à moi-même. L'ensemble me donne une sensation de plénitude.
Et puis brusquement, d'un seul coup, le rêve s'achève.
Voilà, au bout de 5 jours de navigation, alors que tout allait bien, une cadène casse. Le hauban tient plus le mât, il casse lui aussi. Et je lève la tête et je vois le mât plié en deux qui traîne dans l'eau avec le génois et l'enrouleur, tout le gréement sur le pont. Sur le coup, je me dis que c'est un cauchemar et que tout va revenir une minute en arrière. Et finalement, non. Je reprends assez vite mes esprits et je me dis qu'il y a des choses à faire. Du coup, je m'attache à une ligne de vie et plonge vers la tête du mât pour récupérer l'antenne. Mais le roulis du bateau me rend la tâche assez difficile et ma ligne de vie commence à s'en mêler. Je ne m'attarde pas et je sors assez rapidement de l'eau. Je bricole une antenne en l'accrochant à la gâche que j'accroche elle-même en haut du portique qui était à l'arrière du bateau. Je me fabrique un gréement de fortune avec le morceau de mât qu'il me reste et je commence à imaginer des stratégies.
Eh bien, quelle histoire! Je crois que nos amis navigatrices et navigateurs qui sont actuellement dans le Pacifique vont écouter avec beaucoup d'attention. Mais dis-moi, dans cette affaire-là, est-ce que tu as eu un sentiment de découragement à un moment donné?
Alors, sur le coup, pour moi, c'est comme si tout s'effondrait. Je ne croyais pas, mais j'ai quand même vite repris mes esprits. Après, le lendemain de l'avarie, il y a un grain qui commence à me pousser nord-ouest alors que je devais me laisser dériver sud-ouest. Et un bref instant de découragement, et toujours pareil, je cherche une solution. Je sors du grain en tirant des bords avec l'élan que la houle me donnait. Une autre fois, alors que j'allais allumer le moteur, j'appuie sur le bouton pour l'allumer, mais rien ne se passe. Après un nouveau moment de doute, je m'improvise mécanicien et j'arrive à refaire démarrer le moteur. Après, j'ai eu des occasions de me laisser gamberger, de laisser des idées noires fuiter, et je me suis rendu compte que c'était très mauvais, qu'il fallait surtout pas.
Et tu n'as pas entendu des voix en mer, hein, par hasard?
Non, jamais de voix en mer.
Non. On n'est pas comme Josvas Lecoum, personne n'est venu à ton secours, tu es resté tout seul là, sur le bateau, donc à dériver au gré des courants. Mais tu avais un moteur, mais tu avais suffisamment de carburant?
Alors j'avais environ 20 ou 30 heures de carburant, et étant arrivé aux trois quarts du chemin, j'ai commencé la première demi-journée à aller au moteur en direction des Marquises pour finir mon périple. Puis je me suis rendu compte qu'à contre-courant, j'avançais pas, que j'allais puiser mon essence et que j'allais jamais arriver. Du coup, j'ai décidé d'utiliser l'essence qui me restait pour prendre plein sud et continuer à me laisser dériver sud-ouest. Et comme ça, j'arriverai dans les premières îles des Tuamotu. Je visais les premières îles des Tuamotu.
Oui, vraiment, partir à la dérive, ça s'appelle, hein. Donc avec quand même un petit moteur auxiliaire, mais enfin, c'était pas suffisant. Et finalement, c'est en faisant confiance au courant que tu as fini par arriver quelque part.
Oui, voilà, c'est ça.
Combien de temps ça a duré, cette dérive?
Alors, en tout, ça a duré 7 jours de dérive. Donc, au début, ça a été assez difficile, puisque je ne savais pas vraiment où j'allais, comment j'allais m'en sortir. C'était surtout des essais que je faisais. Et puis, quand j'ai vu que ça commençait à fonctionner, je commençais à avoir un petit peu plus confiance en moi. Et c'était mieux. Pour moi, personnellement, c'était mieux. Après, j'avais une grosse angoisse en imaginant les gens qui m'attendaient, qui ne me voyaient pas arriver, ça, pour le coup.
Oui, tu commences à penser aux autres et puis un jour tu vois une terre.
Voilà, j'arrive à me diriger vers une île des Tuamotu qui s'appelle Takaroa, qui est une des premières îles où j'ai pu voir sur mon GPS. L'île avait un aéroport, donc je me suis dit cette île est habitée, ça va être une bonne opportunité. Et du coup, je vois cette île et ça commence à aller mieux. J'arrive aux abords de l'île, je commence à capter du réseau, je peux informer les autres que tout va bien. Et là, tout se passe bien, quoi.
Et comment tu es reçu dans cette île ?
Alors, sur cette île, donc c'est Takaroa, c'est une île de 400 habitants, un peu au milieu du Pacifique. Donc tout le monde, les gens de l'île ont vu arriver un bateau avec le mât en deux. Je suis venu me mettre dans un coin de l'île, au mouillage dans un coin de l'île. Et je suis descendu, d'abord je me suis fait un gros plat de pâtes puisque je me rationnais au cas où, je ne savais pas combien de temps ça allait durer. Et je me suis fait un énorme plat de pâtes, presque 500 grammes du bonheur. Et je suis descendu aller voir un petit peu comment ça se passait sur l'île. Et puis du coup, les gens m'ont dit « Ah, c'est toi qui es venu avec le bateau cassé, tout ça ». Et puis ils ont été super accueillants. Mon histoire a un peu tourné sur l'île et Madame la maire a voulu me voir. Et finalement, elle m'a proposé un fût de 300 litres de gasoil pour que je puisse rentrer au moteur à Tahiti.
Donc tu es revenu en bateau, au moteur, à Tahiti, jusqu'à Tahiti alors.
Comme oui, ça, c'est ça.
Au moteur. Mais dans ton périple, quand tu dérivais, tu n'as jamais vu personne, tu n'as pas croisé d'autres bateaux.
Non, aucun autre bateau. Et finalement, je me suis rendu compte que l'antenne de fortune que j'avais faite ne servait à rien parce qu'elle devait être à quelque chose comme 4 mètres de haut. Et 4 mètres de haut, ça ne suffit pas. Et pour un signal radio, ça ne servit à rien. Sauf qu'en plus de ça, comme je ne me rendais pas compte au début et que je mettais les chances de mon côté, je laissais l'alarme... L'AIS.
Oui, l'AIS.
Je laissais l'AIS en mode secours. Donc l'AIS en mode secours, il envoie un signal toutes les 5 minutes. Et avant d'envoyer son signal, il fait 3 ou 4 énormes bips que moi j'avais 24 heures sur 24 dans la cabine. Et qui me cassait les oreilles. Au bout de quelques jours, quand j'ai vu que ça servait à rien et que ça fonctionnait pas, j'ai arrêté l'AIS. Après, du coup, je passais mon temps en pied de mât avec les fusées de détresse en attendant de voir si je croisais un bateau, un paquebot, un voilier, peu importe. Où je me suis dit que si je vois la moindre trace de vie humaine, je mets le moteur à fond en direction du bateau en claquant mes fusées de détresse et tout ce que j'avais pour vraiment comme une dernière chance, quoi.
Mais ça n'a pas été le cas, il n'y a eu personne, donc tu es revenu par tes propres moyens jusque dans une île. Mais alors une telle aventure aurait pu te détourner de la mer. En fait, tu as continué à naviguer, et alors tu as des projets ?
Je garde toujours la mer de côté. Depuis, j'ai fait une transatlantique, je continue à naviguer dès que j'en ai l'occasion. Ouais.
Eh bien, c'est très bien. Je te remercie beaucoup d'être venu nous parler de cette aventure. Je pense que ça va passionner tous nos amis donc, qui sont dans l'océan et surtout du côté du Pacifique. Et puis, on peut leur dire quoi si jamais ça arrive ? Qu'est-ce qu'on leur dit ? On dit quoi ? Qu'est-ce que tu veux leur dire ?
Qu'il faut garder son sang-froid, qu'il y a toujours des solutions. Il y a toujours des solutions. Faut pas se décourager.
Voilà. Gardons notre sang-froid. Gardons la foi. Il y a toujours une solution. Merci beaucoup, Andrea, pour cette fortune de mer.
Merci à toi.
Maintenant, pleure encore outre-mer. Qui, quelque part, pleure encore. Pourquoi ? Qui, maintenant, quelque part, à l'envers. Qui, simplement, sourit sans moi. Je suis perdu en mer. naviguons solitaires, poussés par des courants contraires. Qui, maintenant, marche encore outre-mer? Qui, quelque part, s'éloigne de moi? Je suis perdu en mer, naviguant solitaire, poussé par des courants contraires. Qui, sans raison, quelque part, solitaire, meurt maintenant. Qui, maintenant, quelque part, à l'envers, meurt sans raison, j'entends sa voix.
Eh bien, on vient d'entendre Bernard Lavillier. Et Jean-Marie Chiesse et Andrea Ciabarazzi vous accueillent sur la Liberté des Mers, Radio FM Plus Montpellier, où nous parlons des fortunes de mer. Andrea vient d'évoquer son naufrage en plein Pacifique. Que valent les coquilles de noix face au déchaînement des éléments? Les vagues dites scélérates et imprévisibles, dont certaines atteignent l'incroyable hauteur d'un immeuble de 15 étages. Tiens. En août 1883, au large du Cap de Bonne-Espérance, pendant plusieurs jours, les navires bondissent littéralement sur les flots. Le Northern Light du capitaine Slocum, dont nous avons déjà parlé, est à son tour mis en grosse difficulté par des pyramides d'eau, dit-il, et des vagues énormes qui balayent le pont d'une lisse à l'autre. C'est un raz-de-marée provoqué par l'éruption du volcan Krakatoa. Ce raz-de-marée fera plusieurs fois le tour du globe, se mêlant au redouté rouleau du Cap, de Cap de Bonne-Espérance, au Cap Malheur pour certains. Même sur les côtes, on se méfie du mouvement des eaux. Héraclion, un très grand port proche d'Alexandrie, en Égypte, fut bien brutalement submergé en une nuit, il y a 1200 ans, et on retrouve encore dans le fond ses 64 navires ancrés. Sur les flots, l'impensé s'impose comme si quelques divinités pouvaient intervenir de temps en temps et le peupler d'êtres ou de phénomènes selon sa fantaisie ou un insondable dessein. La déesse Fortuna crée le malheur des naufragés, mais elle enrichit aussi les pilleurs d'épaves.
J'ai vu dans mes yeux, dans mon rêve, la Notre-Dame des brisants qui jetait à ces pauvres gens un gros navire sur leur grève. Sur la grève des Kerlouans, le sort est dans l'eau, le cormoran nage, le vent bat en côte et c'est le moins noir. Au moins je sens bien de loin le naufrage, moi j'entends là-haut chasser le nuage. Moi je vois profond dans la nuit sans voir. Moi je siffle quand la mer gronde, oiseau de malheur à poil roux. J'ai promis aux douaniers de ronde leur part pour rester dans leur trou. Que je sois seul oiseau d'épave sur les brisants que la mer lave. Oiseau de malheur à poils roux, et qu'il vante la peau du diable, je sens ça déjà sous ma peau. La mer moutonne au mon troupeau. C'est moi le berger sur le sable. L'enfer fait l'amour, je ris comme un mort, sauter sous le houlou des rafales, sur les noirs taureaux sourds, blanches cavales, votre écume à moi, cavale d'Armor, et vos crins au vent, je ris comme un mort. Mon père était un vieux saltin, ma mère une vieille morgade. Une nuit sonna le tocsin, vit à la côte une frégate. Et dans la nuit jusqu'au matin, ils ont tout rincé la frégate. Mais il dort mort le vieux saltin, et morte la vieille morgade, là-haut dans le paradis saint. Ils n'ont plus besoin de frégate.
En compagnie de Jean-Marie Kies, vous suivez toujours La Liberté des Mers sur Radio FM Plus Montpellier. Après le curieux visiteur de Josua Slocum, l'aigle divin du commandant Kies, les fortunes de mer d'Andrea Sciabarazzi, voici maintenant un dernier récit qui nous montre combien un signe issu des flots va bouleverser l'histoire et agiter les esprits pendant des siècles. Écoutez bien, nous sommes sous le règne de l'empereur Tibère. Cet étrange phénomène, dit-on, se passe peu de temps après la crucifixion du Christ. Il s'agit donc d'un bateau qui croise aux environs des îles ioniennes, Paxos, au sud de Corfou. Et une voix, venue de la mer au coucher du soleil, va parler au pilote du navire. Écoutons ce qu'il nous en dit.
Voici ce que j'ai entendu dire à un homme qui n'était ni un sot ni un hâbleur, le rhéteur Émilien. Il me raconta qu'un jour, se rendant en Italie par mer, il s'était embarqué sur un navire qui emmenait des marchandises et de nombreux passagers. Le soir, comme on se trouvait déjà près des îles Échinades, le vent soudain tomba et le navire fut porté par les flots dans les parages de Paxo. La plupart des gens à bord étaient éveillés et beaucoup continuaient à boire après le repas. Soudain, une voix se fit entendre qui, de l'île de Paxo, appelait en criant Tamou. On s'étonna. Ce Tamou était un pilote égyptien et peu de passagers le connaissaient par son nom. Il s'entendit nommer ainsi deux fois sans rien dire. Puis, la troisième fois, il répondit à celui qui l'appelait, et celui-ci, alors, enflant la voix, lui dit « Quand tu seras à la hauteur de Palode, annonce que le grand Pan est mort. »
En entendant cela, continuait Epiters, tous furent glacés d'effroi. Comme ils se consultaient entre eux pour savoir s'il valait mieux obéir à cet ordre ou ne pas en tenir compte et le négliger, Tamou décida que, si le vent soufflait, il passerait le long du rivage sans rien dire, mais que, s'il n'y avait pas de vent et si le calme régnait à l'endroit indiqué, il répéterait ce qu'il avait entendu. Or, lorsqu'on arriva à la hauteur de Palode, il n'y avait pas un souffle d'air, pas une vague. Alors Tamou, placé à la poupe et tourné vers la terre, dit, suivant les paroles entendues, « Le grand Pan est mort. » À peine avait-il fini qu'un grand sanglot s'éleva, poussé non par une, mais par beaucoup de personnes, et mêlé de cris de surprise.
Comme cette scène avait eu un grand nombre de témoins, le bruit s'en répandit bientôt à Rome, et Tamou fut mandé par Tibère César. Tibère ajouta foi à son récit, au point de s'informer et de faire des recherches au sujet de ce pan. Les philologues de son entourage, qui étaient nombreux, portèrent leurs conjectures sur le fils d'Hermès et de Pénélope. El Philippe vit son récit confirmé par plusieurs des assistants, qu'il avait entendu raconter à Émilien dans sa vieillesse.
Cette affaire a bouleversé le monde antique et même une partie du Moyen-Âge. Eh oui, Finalement, traverser la mer, c'est bien aller d'un monde à l'autre. Et comme disait Shakespeare, il y a plus de choses dans le ciel et sur la terre que n'en rêve votre philosophie. Mais moi, je compléterai dans le ciel, sur la terre, mais aussi en mer. Et voici pour terminer un poème de Mallarmé interprété par Serge Lama, La brise marine.
Elle est triste, hélas, et j'ai lu tous les livres. Fuir là-bas, fuir, je sens que des oiseaux sont ivres d'être parmi l'écume inconnue et les cieux. Rien ni les vieux jardins reflétés par les yeux ne retiendra ce cœur qui dans la mer se trempe aux nuits et la clarté déserte de ma lampe sur le vide papier que la blancheur défend.
Le chant des matelots perdus sans mâts.